Radio Kapi.
Ils veulent retourner dans leur milieu d'origine. Ce sont plus de 2000 ménages dans les camps des réfugiés de Djaïba en Ituri. Ils se sont ainsi exprimés à l'endroit de la chef de la MONUSCO, Mme Bitou Keïta, qui les a visités hier mardi. Pendant ces temps, le choléra sévit à Wamuzimu, une chefferie du territoire de Mwenga au sud Kivu. 90 nouveaux cas enregistrés en une semaine avec 8 décès. D'après l'administrateur du territoire, le manque d'eau potable et la pollution d'une rivière locale en seraient la cause. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal Emmanuel Kabengele. Il est le coordonnateur national du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice. Il s'exprime sur les bavures policières de plus en plus enregistrées ces derniers temps à travers les pays. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Plus de 2000 familles composées de personnes déplacées de sites de Djaïba et Loda dans les territoires de Djougou manifestent leur volonté de retourner dans leurs villages respectifs. Elles l'ont dit mardi à la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, en visite dans cette région en proie aux exactions des assaillants de la CODECO. Martial Kizabiamungo, vous étiez dans la délégation.
La délégation de la MONUSCO conduite par Bintou Keïta est arrivée à Djaïba, peu avant 10h, heure de l'Est. Cette petite localité située à 4 km de Fataki Centre est envahie par des abris construits à bâches et paille. Ici, plus de 2000 familles vivent contre leur propre gré. Ces personnes ont fui il y a 4 mois les attaques répétitives des assaillants de la CODECO dans les groupements Fataki pour trouver refuge à côté du camp de la MONUSCO à Djaïba, jugé plus sûr. Leurs conditions de vie y sont déplorables. La chef de la MONUSCO, les représentants des déplacés ont émis le vœu de retourner dans leur milieu une fois la sécurité rétablie.
Pour nous faciliter notre retour, déployer une force militaire de MONUSCO vers les lieux où nous sommes sortis.
Pour la représentante spéciale Bintou Keïta, il faut un travail d'ensemble pour que ces zones de retour soient sécurisées.
On doit travailler ensemble pour faire en sorte que la FRDC, la PNC et la MONUSCO sécurisent les lieux où les déplacés doivent revenir.
Parmi les solutions pour une paix durable, ces déplacés demandent la mise en œuvre rapide du processus DDRCS pour récupérer les armes que détiennent les miliciens. Des retours de Djaïba, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
On reste dans la région. 34 éléments de la milice CODECO ont été neutralisés et une dizaine d'armes récupérées. C'est le bilan des opérations militaires dans le centre de Kobu entre les FARDC et cette milice. Au cours d'une conférence de presse ce mardi à Bunia, l'armée demande à la population de se ranger derrière les FARDC pour soutenir les efforts de la pacification de cette zone et de cesser de diaboliser le gouvernement et son partenaire, la MONUSCO, qui œuvre sans relâche pour la stabilisation de la province de l'Ituri. Dis-nous, Ezekiel. Moussalia, que faisaient ces inciviques?
Ces inciviques ont tenté en vain de déloger les forces loyalistes de cette entité située à environ 50 km de la ville de Bunia, en secteur de Walendu-Djatsi. La réplique des forces loyalistes s'est soldée par la neutralisation des 34 assaillants et 18 autres blessés, indique le porte-parole de l'armée en Ituri. Le lieutenant Jules Ngongo rassure cependant la population de la détermination de l'armée à mettre fin à l'activisme de ces forces négatives qui déstabilisent la province. Le lieutenant Jules Ngongo:
nous allons continuer dans cet élan pour couper toutes les têtes de c'est là qui dérange notre population et de manière légale et légitime. En ce moment, nous vous parlons, les forces armées sont en œuvre pour mettre hors d'état de nuire ces renégats afin de passer à la stabilisation de la situation sécuritaire dans cette zone Kobu Bambou. Voilà pour nous l'effet final recherché dans ces opérations.
De leur côté, les autorités coutumières dans les secteurs de Djati saluent la bravoure des militaires qui ont repoussé ces hors-la-loi. Elles s'inquiètent cependant du sort de plusieurs habitants qui sont cachés dans la brousse à cause de l'activisme de ces miliciens. La crainte est que ces personnes ne soient la cible des attaques de ces miliciens qui sont en errance dans la région. Bunia, Ezekiel Moussalia, Radio Okapi.
non loin de la Nord Kivu, des miliciens Mai Mai du groupe Ngolenge Kadima imposent aux cultivateurs de leur verser d'importantes sommes d'argent dans la localité de Kamandi, dans le sud du territoire de Lubero. D'après la société civile locale qui rapporte ces faits, les cultivateurs craignent actuellement de se rendre dans leurs champs de peur d'y rencontrer ces hommes armés qui leur imposent jusqu'à 10 000 francs congolais par mois. Sadiki Aboubakar, d'où viennent ces miliciens?
Ces miliciens viennent de la localité de Kianika, à près de 10 km de la rivière Ruindi qui sépare les territoires de Lubero et de Rutshuru. D'après des sources de la société civile locale, c'est depuis la dernière semaine du mois d'août que cette milice avait remis des jetons aux cultivateurs de Viangungu, Kasoko, Kiteta, Kabenete, Kazaroo, Kahwa et Kitsombiro. Les cultivateurs de café avaient reçu un jeton de 10 000 francs congolais, tandis que les propriétaires des champs de manioc ont reçu chacun un jeton de 5 000 francs. C'est depuis le début de cette semaine que le Maïmaï ont commencé à recouvrer l'argent, rapportent les mêmes sources. Conséquence, les habitants de Kamandi ne veulent plus se rendre au champ, craignant d'y rencontrer ces miliciens. La société civile appelle à une intervention urgente de l'armée pour protéger la population et permettre aux cultivateurs d'accéder à leurs champs sans difficulté. Contacté par Radio Okapi, l'administrateur du territoire de Lubero dit avoir été alerté à ce sujet. Le colonel Donando Ndamandonga affirme avoir dépêché des militaires sur place pour sécuriser la population et mettre fin au rationnement des cultivateurs. Boutembo, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, les habitants des cités périphériques de la ville de Kisangani se plaignent de l'insécurité grandissante dans leurs milieux. Il s'agit notamment de Simensta, Kachuya, Lupia et Pekassette. En moins d'un mois, affirme Richard Katembo, leader communautaire, 10 motos, des téléviseurs et autres biens de valeur, ainsi que de l'argent, ont été emportés par des bandits à main armée. Ils se disent abandonnés à eux-mêmes parce que les forces de l'ordre, d'ailleurs en sous-effectif, n'arrivent pas à assurer la sécurité des populations et des biens dans ces quartiers. Pour cela, souligne Richard Katembo, beaucoup de gens ont abandonné leurs maisons pour regagner les centres-villes. Il est dit au téléphone de Jacques Moukokole.
Ils tirent par-ci, par-là pour intimider la population. Et quand ils vous intimident, vous êtes obligé d'ouvrir. Parfois, ils cassent la porte avec force. Ce qui est regrettable est que et les chefs de quartier et les commandants à place qui devraient venir se rendre compte au lieu du drame, ils ne arrivent pas. Nous voyons que nous sommes abandonnés par ces dites autorités-là. À la lire où la ville était en train d'avancer, la ville prenait déjà l'ampleur de s'épanouir, puisque au niveau de Simensta, il n'y avait plus de place vide où les gens devraient faire acheter les parcelles. Mais au moment où je vous parle, tout le monde vide maintenant Simesta pour rentrer au niveau de la Makiso. Tout le monde vide maintenant Kachuya pour rentrer à la Makiso. Tout le monde est en train de fuir leurs parcelles, leurs maisons pour rentrer et devenir locataires et pourtant ils avaient leur maison propre. J'en appelle à la jeunesse d'être vigilant puisque c'est un mouvement qui s'est fait observer presque dans des périphéries. Les autorités doivent prendre aussi conscience puisque quand la ville prenait l'allure de s'épanouir comme ça, il faut voir comment on peut élargir les services pour aller sécuriser la population qui sont au niveau de la périphérie.
Le commandant urbain de la police dit être bien informé de toute la situation de la ville. Une opération de traque est en cours de planification, déclare le colonel Floribert Kingombe. Il sollicite l'appui des autorités administratives pour multiplier les patrouilles et d'être efficace sur le terrain. Autre nouvelle, 86 Congolais expulsés du Zimbabwe sont arrivés ce dimanche à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Ils sont pris en charge par le gouvernement provincial à travers le maire de Lubumbashi en attendant qu'ils regagnent chacun sa famille ou son milieu de provenance. Jean Gandou.
Ces Congolais ont été arrêtés lors d'un contrôle mené par la police locale. Parmi eux se trouvent les hommes, les femmes et les enfants. Ils sont tous accusés de séjour irrégulier. Il y en a qui ont été détenus en prison pendant plusieurs jours, voire des mois avant de se voir expulsés. Ils ont été conduits jusqu'à la frontière de Kasumbalesa où ils étaient accueillis par le maire. Après les formalités d'usage, notamment l'identification, ils ont passé les tests Covid et ont été acheminés à Lubumbashi, accompagnés par les éléments de la police des frontières et les officiers de migration. Christian Momat, le ministre provincial de intérieur à titre intérimaire qui les a reçus, leur a souhaité la bienvenue tout en leur assurant du soutien du gouvernement provincial. Aussitôt, ils ont été remis entre les mains du maire de Lubumbashi. Ce dernier les a logés pour la plupart dans des guest houses dans la commune de Kampimba. Pendant ce temps, ils vont chercher comment atteindre leurs familles respectives. Soulignons que ceux qui ont des familles à Lubumbashi ont rejoint les leurs mardi. À noter que parmi les expulsés qui sont arrivés à Kasumbalesa, il y avait aussi un Brazzavillois et 11 Burundais. La migration congolaise les a retournés entre les mains de ceux qui les ont amenés. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Au sud Kivu, l'administrateur du territoire de Mwinga annonce une nouvelle épidémie de choléra dans son entité. En effet, 90 nouveaux cas ont été enregistrés en une semaine avec 8 décès. Cette recrudescence du choléra est signalée précisément dans la chefferie de Wamuzimu, dans le sud du territoire de Mwinga. C'est dans la zone de santé de Kitutu. D'après l'administrateur du territoire, le manque d'eau potable et la pollution d'une rivière locale sont parmi les causes de la résurgence du choléra à Kitutu. Bundiakika, joint au téléphone par Cynthia Bachizi.
Dans la zone santé de Kitutu, il y a l'épidémie, la maladie de choléra. On a déjà fait une déclaration officielle le mois passé où il y avait suspicion de cette maladie puisque beaucoup de gens faisaient la diarrhée, les vomissements. Et après, on a pris les échantillons, on les a envoyés au laboratoire à partir de Bukavu pour l'analyse. Et ce qui a confirmé que réellement, ce n'est plus une maladie diarrhée quelconque, mais c'est le choléra. Ce que nous avions remarqué, c'est lié à la pénurie en eau potable et aussi l'eau pollué par certaines entreprises qui exploitaient la rivière Elila et une grande partie de la population de Kitutu consommait ça comme eau potable. Nous avons déjà pris des mesures pour lutter contre cette épidémie. Nous avions fait quand même beaucoup de réunions avec beaucoup de couches pour les sensibiliser comment ils doivent se comporter pendant cette période où cette épidémie est vue à Kitutu et ils doivent respecter les mesures hygiéniques qui sont dictées par les techniciens de la
santé. Et puis cette nouvelle au Congo central, sauf changement des dernières minutes, la cérémonie de remise et reprise entre Atou Matubwana, ex-gouverneur du Congo central, dont la destitution venait d'être approuvée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et Justin Luemba, désigné pour assumer l'intérim, aura lieu ce mercredi. Une source proche du gouverneur intérimaire du Congo central affirme que les dispositions sont prises pour que Justin Luemba prenne officiellement ses fonctions. Rappelons que c'est à travers une note de service datée du dimanche 5 septembre dernier, adressé au vice-gouverneur de cette province, que maître Daniel Asselo Kito a confirmé la destitution de Atou Matubwana. Par cette décision, le ministre de l'Intérieur dit avoir tiré les conséquences du vote de la motion de défiance contre Atou Matubwana du 4 décembre 2019 par l'Assemblée provinciale du Congo central. Conformément alors à la Constitution, le vice-gouverneur va assumer l'intérim en attendant l'organisation des élections par la CENI pour désigner les nouveaux animateurs de la province du Congo central. Radio Okapi diffuse depuis le début de cette semaine une série de reportages sur la conservation des corps dans les morgues à travers quelques villes du pays, vous le savez. Pendant plusieurs années, certaines villes du pays ont gardé une seule morgue. À la suite de la démographie galopante de la population, les autorités tentent de créer de nouvelles structures, de nouvelles infrastructures aussi, mais cela doit faire face à d'autres réalités, notamment le manque du courant électrique pour les frigos mortuaires ou la faible capacité des frigo devant une demande croissante, comme c'est le cas récemment avec le nombre de décès dus au coronavirus dans certaines villes. Ce matin, nous vous proposons donc de suivre la situation dans la ville de Lubumbashi qui, avec près de 5 millions d'habitants, ne dispose que d'une dizaine de morgues, ce qui est insuffisant pour répondre aux besoins de la population. N'est-ce pas Jean Gandou?
L'insuffisance des nombres des morgues à Lubumbashi se fait sentir avec la flambée des cas de Covid dans la ville. Plusieurs familles se sont retrouvées avec des corps, ne sachant où les déposer. Il y en a qui sont même partis dans le territoire de Kipushi pour y chercher des places dans la morgue. La morgue de l'hôpital général provincial de référence d'Anton Sendwe, la plus grande de Lubumbashi, a une capacité d'une 80aine de corps. Cette morgue, qui vient d'être réhabilitée après une bonne période de fermeture, ne dégage plus les odeurs nauséabondes comme par le passé. Et dans certaines morgues, il y a des cadavres qui sont placés à même le sol, espérant qu'une fois qu'elle en sort un du tiroir qu'il soit vite remplacé. La commune de Lubumbashi vient de construire une nouvelle morgue au quartier Mampala. Malgré cela, le besoin est toujours immense car la ville compterait près de 5 millions d'âmes. Conséquence, certaines familles sont obligées d'enterrer les leurs le même jour du décès, notamment dans les cimetières périphériques où les conditions d'inhumation ne sont pas compliquées, le cas du cimetière de Kashamata. Il faut aussi noter que la ville ne compte pas seulement les morgues dans certaines structures médicales publiques, mais aussi dans les structures privées. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Un premier groupe de plusieurs dizaines d'opposants au président guinéen Déchu Alpha Condé, détenu à la prison civile de Conakry, a été libéré hier en début de soirée. Parmi eux, Abdoulaye Ba de l'UFDG, Étienne Soropogui, Valeurs Communes, Ismaël Condé, maire adjoint de Matam, Kiamu Bogolan Abba, porte-parole de l'ANAD, alliance d'une cinquantaine de partis politiques qui soutiennent l'opposant Selou Dailen Diallo, ou encore Fonike Menge, sorti lui de l'hôpital.
L'invité.
Notre invité, mesdames et messieurs, dans cette édition du journal est Emmanuel Kabengele. Il est coordonnateur national du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice. Il s'exprime sur les bavures policières qui sont de plus en plus enregistrées ces derniers temps à travers le pays. Emmanuel Kabengele, coordonnateur national du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice, est interrogé par Alain Irung. Suivez.
Emmanuel Kabengele, bonjour.
Bonjour.
De plus en plus, des bavures policières sont enregistrées à travers le pays. Le dernier cas en date est celui de ce policier qui aurait tiré par mégarde sur son supérieur ici à Kinshasa. Quelle en est la cause, selon vous?
À notre niveau, la raison réelle est plus à situer au faible niveau de mise en œuvre de la réforme de la police. Vous savez, la réforme de la police insinue un nouvel état d'esprit de la police qui se doit de respecter le fondamental de la personne humaine. Et la dignité d'une personne est un droit le plus sacré. Vous avez fait appel aux auteurs des différentes bavures qui sont dans la police. Et je crois que ces auteurs n'ont pas leur raison d'être dans la police qui est censée être pour nous une police de proximité, proche de la population, à l'écoute de la population, en partenariat avec la population, et non, comme je l'ai toujours dit, une police de promiscuité qui pollue l'environnement sécuritaire. Et à mon sens, le pari attendu de la réforme de la police, c'est la transformation réelle de l'homme policier pour qu'il arrive à rassurer davantage la population de par la qualité de ses prestations de services de sécurité. Je me dis que au niveau de management de la police nationale, l'on se doit davantage d'être regardant et même très sélectif en amont avant de pouvoir faire un recrutement dans la police.
À ce jour, selon vous, où est-ce qu'on en est réellement avec cette réforme de la police?
Bon, à ce jour, je peux simplement vous dire que nous sommes pratiquement dans ce que je considère comme une sorte de liturgie de la parole. Nous avons suffisamment de données en termes de plan. Il existe un plan d'action quinquennal mis à jour de la réforme de la police nationale congolaise. C'est un plan qui retrace un certain nombre d'actions qui peuvent faire de notre police réellement professionnelle de par la qualité de ses interventions et de ses prestations. Mais il faut également vous avouer que le moyen ne sont pas mises à la disposition de la police pour pouvoir mettre en œuvre cette réforme selon le prescrit de ce plan. Donc, ce qui fait effectivement défaut, c'est la mise en œuvre de ce plan. Nous nous contentons de lire les belles actions, les belles activités prévues dans ce plan, mais la mise en œuvre continue à faire défaut.
Quelles sont, selon vous, les caractéristiques d'une police professionnelle?
Pour nous, les caractéristiques d'une police professionnelle se retrouvent déjà dans la doctrine de base de la police qu'on appelle la police de proximité. C'est une police proche de la population, une police à l'écoute de la population, une police en interaction avec la population dans le cadre de la recherche des solutions aux problèmes de sécurité. C'est pas vraiment une police qui est vraiment ennemie ou adversaire de la population. C'est une police qui rassure. Vous savez, pour nous, l'indice de rassurance, c'est plus la nuit. Si on arrive à un moment où, à 22 heures, vous croisez un policier, vous vous frottez les mains pour dire, OK, voilà, au moins quelqu'un qui me sécurise. Là, on peut dire que le pari est gagné, mais imaginez-vous aller dans des zones reculées à 22 heures si vous trouvez le policier. Bon, le simple réflexe, c'est trouver par où fuir parce que pour vous, vous vous dites que si vous le croisez, c'est votre téléphone qui s'envole ou c'est ce que vous avez en poche de s'envoler. Donc voilà en fait un peu de question d'inquiétude réelle qui touche pratiquement à la discipline du policier lui-même.
Quelles recommandations pouvez-vous formuler aux autorités qui vous suivent en ce moment pour que les choses s'améliorent dans ces secteurs?
La meilleure recommandation, c'est d'abord le moyen, parce que vous savez que la réforme place avant tout l'homme au centre, l'homme policier et également aussi l'homme civil. Et déjà, il y a une sorte de boussole qui indique même de manière budgétaire ce qu'il convient de faire. Donc, nous pensons que le gouvernement fera œuvre utile en proposant dans la loi budgétaire prochaine un budget conséquent pour la mise en œuvre du processus de réforme. Les parlements feront œuvre utile en mettant l'accent sur ces questions budgétaires et nous, société civile, on va vraiment faire le suivi de la mise en œuvre effectivement du budget qui sera affecté pour pouvoir voir si réellement ce budget pourra participer au changement de comportement de police.
Emmanuel Kabengele, merci.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.